parole du jour avec le Père Willem.
L'homme est créé pour voir Dieu. Oui, l'homme est créé pour vivre de la vie même de Dieu, pour partager cette vie dans la connaissance et l'amour. Bref, pour voir Dieu avec toutes les harmoniques symboliques du verbe « voir ». C'est la formule célèbre d'Irénée de Lyon, malheureusement souvent citée à moitié. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Irénée ne fait que reprendre une formule de la première épître de Jean. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est, dans la première de Jean, chapitre 3, verset 2, formule que méditera à son tour saint Augustin. L'incarnation du Fils est déjà ordonnée à la vision du Père. Philippe, qui m'a vu, a vu le Père, nous dit Jésus en Jean 14. Autrement dit, en créant l'homme, Dieu l'inscrit dans le dessein de se communiquer à lui, de se donner à lui. Il pose en lui une vocation. Il l'appelle à le voir. Cette vocation est même première dans l'ordre de l'intention divine par rapport à la création elle-même. Une formule médiévale disait de même, avant d'être homme, il est en forme de Dieu. Dans la même logique, le Fils se fera homme dans le but de nous diviniser. Traduisons cela en langage moderne. L'homme est un être de désir. Son désir est à la fois universel et absolu, c'est-à-dire que ce désir n'est jamais satisfait par tout bonheur déjà réalisé. Dire cela, c'est aussi dire que l'homme est habité par un manque fondamental qu'il cherche sans cesse à combler. Il fait l'expérience de sa transcendance par rapport à lui-même, puisqu'il veut sans cesse se dépasser. Ce désir est le moteur de tous ses progrès dans le domaine de l'intelligence et de l'action. L'homme a aussi une affectivité qui le rend capable d'amour, inséparable pour lui du bonheur. Sa structuration le fait ainsi. Toutes ses réflexions rendent compte de son désir fondamental de Dieu. Cette vocation n'est pas une donnée facultative, extrinsèque à notre être, une récompense accidentelle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons refuser en disant « Non, merci, cela ne m'intéresse pas ». Cette vocation atteint notre être même, elle le constitue, elle est inscrite au plus profond de nous-mêmes. Y renoncer, c'est nous mettre en contradiction absolue avec ce qui nous constitue de manière incontournable. La formule d'Augustin, au tout début de ses confessions, l'exprime avec limpidité. Tu nous as fait orienter vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Cette vocation se traduit en nous par un désir et un besoin incoercible. De la part de Dieu, cette vocation est une exigence à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober sans péché. Cette vocation, voir Dieu, ne peut s'adresser qu'à une créature habitée par un esprit capable de liberté, car la communion de vie entre Dieu et l'homme ne peut être qu'une communion d'amour libre. Ceci suppose que l'homme accueille la vocation divine comme son propre bien et accepte de se recevoir de Dieu, non seulement dans son origine, mais aussi dans sa fin. L'acte de liberté en question est proprement un acte de conversion de l'homme à Dieu, conversion de l'attachement originel à soi-même vers une proximité à donner à Dieu. Une priorité dans cette proximité. Par cette conversion, l'homme aime Dieu plus que lui-même. Du fait du dessein de Dieu de se donner à l'homme, certains théologiens et exégètes ont vu dans la création non seulement le présupposé nécessaire à l'alliance, mais encore le premier temps de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Le théologien luthérien Karl Barth a ainsi exprimé la chose. La création extrinsèque de l'alliance et l'alliance est le présupposé intrinsèque de la création. En d'autres termes, la création n'a de sens qu'en fonction de l'alliance, mais l'alliance postule le préalable de la création. On a souligné la parenté entre les récits de la création et ceux de l'alliance dans la Bible. Ces derniers sont en fait les plus anciens et les plus centraux. C'est à partir de son élection que le peuple a universalisé ce qui lui est arrivé pour en venir à une conception de la création comme premier temps de réalisation de l'alliance. De même, le second livre d'Isaïe met en rapport la création et la libération de l'exil. Ces liens sont indiscutables. Et nous verrons un Irénée comprendre déjà les choses ainsi. Même après cette révélation, même à la lumière du Christ, l'homme reste mystère pour lui-même. Il est ainsi image de Dieu parce qu'il y a d'incompréhensible en lui. L'anthropologie chrétienne annonce donc que l'homme est habité par le mystère de sa relation à Dieu. Il n'est pas étonnant qu'une angoisse profonde soit le contre-coup de cette vocation. Le Concile Vatican II, après avoir posé la question « qu'est-ce que l'homme ?», a évoqué le fait qu'il demeure à ses propres yeux une question insoluble qu'il perçoit confusément et apporte la réponse chrétienne. L'homme ne peut se comprendre qu'à la lumière du devenir homme de Dieu. Dans un beau texte, le Concile développe ici les grandes affirmations de la Christologie de saint Paul en Romains, chapitre 5, verset 12. Voilà ce que dit le Concile. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée, par le fait même. Cette nature a été élevée en nous, en chacun de nous, à une dignité sans égale. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme. Dans la perspective chrétienne, l'homme est donc habité par le mystère de sa relation à Dieu. De ce fait, il est mystère pour lui-même. Et ce mystère se transforme pour l'homme qui ne connaît pas la révélation chrétienne en une énigme difficilement compréhensible. La réponse à cette question est dans la lumière du Christ, lumière de l'homme. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans sa révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. C'est ce qu'affirme le Concile. Car la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine. C'est la visée traditionnelle déjà inscrite dans l'Écriture avec les grandes hymnes christologiques de saint Paul qui placent le Christ au centre du dessein de Dieu. Tout a été créé en lui, par lui est pour lui. Le Père nous a choisis en lui dès avant la fondation du monde. Tout fut par lui. Tel est donc le paradoxe fondamental de l'anthropologie chrétienne. L'homme est une créature finie, habitée par une vocation infinie. Autrement dit, l'humanisation parfaite de l'homme est identiquement sa divinisation. Réciproquement, la déification de l'homme est sa véritable et suprême humanisation. Quel bonheur, quelle chance.